On en parle sur CFM.
12h08, on en parle sur CFM, l'émission de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, André Perreman. Bonjour.
Oui, bonjour.
J'ai bien dit le nom ?
Oui, non.
Allez-y.
Perreman.
Perreman. Alors, vous me corrigez. Hein. Christian Berteland.
Broteland.
Broteland. Et Evelyne Louis, bonjour à tous. Lucie Le Gallet est avec nous également.
Bonjour.
De la société Alemlux, bonjour. Mes deux sociétaires du jour, Casimir Buzinski et Jean-Luc Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors, on va commencer avec vous, Lucie Le Gallet. Une question pour commencer. Oui. Est-ce que ça a une signification à Alemlux ?
Oui, tout à fait. Ça veut dire Alain, Marion, mes parents, et puis Lu comme Lucie. Et voilà, on a mis un X pour faire un peu plus classe, quoi.
Qui a créé l'entreprise ?
Alors, mes parents ont créé l'entreprise en 98 et je les ai rejoints en 2002. Et donc, ça fait 22 ans que je développe l'entreprise qui est donc une entreprise familiale.
Pas trop dur de laisser la barre pour votre père ?
Oh bah si, comme tout le monde, c'est normal.
Il est encore omniprésent ou pas ?
Ah oui, il adore faire les livraisons, accueillir les clients. Il aime le contact, donc je le laisse faire et il adore ça.
Donc il est toujours là, il est toujours présent.
Ah oui.
Et vous laissez faire.
Ah bah oui. Ah bah oui, parce que c'est bien, c'est ce qu'il faut.
C'est rassurant pour vous ?
Oui,
ou c'est
sûr.
Un petit peu agaçant de temps en temps de le voir traîner
deux.
Un peu ?
Les deux.
Vous lui dites, les deux, de temps en temps, bon, ça suffit maintenant.
Non.
Non ?
Non.
Il a toujours ce respect, oui. C'est papa, donc...
Ah bah oui.
Et les décisions, vous les prenez
on les
seul,
prend plusieurs,
ou
si.
Vous les prenez à deux ?
À deux.
À deux ?
Oui, je préfère. J'aime
pourquoi
toujours avoir son œil.
Pourquoi ?
Son œil, avec l'expérience, avec...
Ah oui, mais les temps évoluent aussi, l'entreprise évolue, le monde du travail évolue.
Oui, mais justement, moi j'ai ce côté-là.
Oui.
Ce côté publicité, ce côté...
L'ordi.
Avec les salariés, avoir un peu de social, ce côté nouveau, jeune.
D'accord. Combien d'employés vous avez ?
On est une dizaine en tout.
Une dizaine ?
Oui.
Vous souhaitez en avoir un peu plus ou...
Bah,
au niveau recrutement, vous êtes comment ? Vous avez du mal aussi ?
C'est très difficile, mais en même temps, comme on a un métier qui fait un peu horaire de bureau, c'est
oui.
assez facile finalement. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui se présentent. J'aime bien travailler chez vous parce qu'on ne travaille pas le week-end.
Et ils restent ? Parce que c'est le problème des employés
c'est
maintenant.
Toujours c'est toujours le problème. En moyenne, les gens restent 2 à 5 ans.
Difficile à former ou... Alors, quelqu'un qui arrive, il peut travailler assez rapidement.
Quelqu'un de l'atelier va travailler très facilement et rapidement, parce qu'il suffit juste de lui montrer, c'est facile. Par contre, au bureau, je compte un an de formation.
D'accord.
Un an à vraiment apprendre tout, parce qu'on a un catalogue qui est énorme, avec des produits différents. Il faut connaître les produits, il faut savoir comment ça se monte. Il faut, pour pouvoir les vendre, il faut connaître. Voilà.
Je suppose que vous en tutoyez quelques-uns, parce que vous étiez salarié... Pour commencer, oui. Vous êtes maintenant la patronne. Comment ça s'est passé, la transition entre les deux ? C'est un vouvoiement qui est venu assez naturellement ou c'est la tape dans l'épaule, comment vas-tu ce matin ?
C'est la tape dans l'épaule, comment vas-tu ce matin ?
Et vous n'avez pas cherché à mettre un peu de distance ?
Parce qu'on peut plus essayé, mais j'ai pas réussi.
On peut plus
c'est
déconner.
Pas naturel. C'est pas naturel pour moi.
Ouais.
Non.
Donc c'est, là, c'est...
Alors après, on me dit oui, t'es trop gentil.
Ouais.
Je suis trop gentil avec mes salariés.
Et ils n'abusent pas. Pour les plus anciens,
c'est ce que je leur demande. Je leur demande que ça aille dans les deux sens. Mmh. Si moi je suis sympa, il faut qu'eux aussi soient sympas et que ça aille dans les deux sens. Voilà. Si ça ne va pas dans les deux sens, c'est là que ça clash.
Et ça clash fort ?
Non.
Ou ça clash doucement ?
Non, doucement.
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 C'est familial.
Oui, voilà.
Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez amené dans l'entreprise ? C'est toute une numérisation du système ou,
Tout à fait.
C'est ça ?
Oui, les logiciels, la façon de procéder. Les procédures, j'appelle ça une procédure. On accueille le client, on commence par connaître son besoin, après on lui propose des matériaux, après on finalise la commande, et ensuite, on va dire, c'est le béaba du commerce. Mmh. Mais je préfère embaucher quelqu'un qui sort de la restauration, qui ne connaît rien du tout.
Ça veut dire que vous avez mieux le former qu'il a été formé.
Oui, parce que quelqu'un qui sort d'une école de commerce, il veut... Tout savoir, il connaît tout.
Il sort d'une école de commerce.
Il sort d'une école. Et oui.
Mais c'est le cas de tous les élèves qui sortent. Hein, quand ils arrivent dans l'entreprise, on aura, on va dire, entre guillemets, un peu bourré le mot, qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils allaient révolutionner le monde de l'entreprise. Et quand ils arrivent, ils sont obligés de se plier. C'est
fait.
Ça, exactement,
c'est exactement
vous vivez. Quels sont les EPI, les équipements de protection individuelle dont disposent vos salariés ?
Alors, deux fois par an une paire de chaussures. Ouais. Donc ils ont une chaussure, enfin une paire pour l'été, une paire pour l'hiver.
Qui est un peu plus légère.
Plus légère l'été. Ouais. Bah, il fait tellement chaud.
Des chaussures coquées.
Oui, toujours. Oui, ouais. Bien sûr, il y a les coques.
Autre chose.
Pantalons de sécurité.
Des casques pour ceux qui coupent.
Des casques obligatoires pour la découpe.
Ils les mettent.
Qui ont une certaine référence. Je me suis mis en relation avec la médecine du travail pour avoir la bonne référence du. Pour avoir au bruit et pour pas pour les oreilles.
Ouais.
Les gants, les casques, il y a tout ce qu'il faut. Les visières surtout pour les limailles, parce que les yeux, c'est quatre pieds.
Est-ce qu'il les pose? Est-ce qu'il les porte?
Ah oui, il les porte. Ah oui, je les impose.
D'accord.
Ça, c'est le seul truc, je suis vraiment très dur
intransigeante là-dessus.
Intransigeante là-dessus. C'est le casque anti-bruit, la visière.
Accident du travail, voilà. Ça vous est arrivé?
Non.
Ou très rarement
non,
ou...
Une fois, il y en a un qui s'est blessé parce qu'il a frôlé le mollet sur une tôle. Et donc, il s'est coupé le mollet. Donc, il y a eu des points. Voilà.
C'est pas grave. Ouais. C'est pas trop grave, on va
non,
dire.
Non, ça va.
J'ai visité votre site internet, j'ai trouvé différents produits que vous commercialisez. Alors, il y a des panneaux de bardage, des panneaux de toiture, des portes, des caissons et bien d'autres choses. Mmh. Votre cœur de métier, c'est quoi? C'est ça? Alors, c'est la fabrication?
On perd tous les panneaux qu'on trouve dans les usines qui fabriquent les panneaux. Tout ce qui est début de production, fin de production, tout ce qui est leur réglage de machine et aussi les invendus. Quand il y a un architecte qui refuse toute une commande parce que c'est pas la bonne couleur. Mmh. Et ben moi je récupère tous les panneaux et je les recommercialise coupés sur mesure pour chaque client.
D'accord, mais c'est peut-être pas forcément la même couleur sur tous les.
Et ben justement on voit avec le client, on fait des photos, on lui envoie, est-ce que cette couleur vous convient?
Oui, et du produit neuf, vous en faites également?
Bon, on est obligé d'en faire quand il y a des grandes usines, des grosses demandes, on peut pas refuser la vente, donc on chiffre en neuf.
Alors, est-ce que vous êtes référencé auprès des entreprises qui cherchent à déstocker?
Oui, parce qu'avec les années, les connaissances, les usines, elles nous appellent directement.
Donc, c'est quoi votre volume de...
On a des listes de panneaux qui sont chez eux.
Ouais.
Si on veut, on peut regarder sur les listes, dire ah, « tiens, je vais prendre ce paquet-là, il me semble bien ». Et puis après, ils nous contactent, ils nous disent « voilà, j'ai un lot, tel client nous a refusé 3 camions ». Il y a un camion qui est arrivé sur le chantier, un camion qui est sur la route et un camion qui est encore à l'usine. Mmh. Est-ce que vous prenez? Et j'ai 10 minutes pour dire oui ou non.
D'accord.
Voilà.
Avec le risque financier.
Avec
que ça
le risque financier qui.
Et vous ne savez pas ce qu'il y a vraiment dans le camion? Voilà. Ou vous avez une petite
non,
idée?
Une
vous
ne
savez
idée,
pas si c'est très très abîmé ou.
Ah non, mais je sais pourquoi ils sont refusés.
Oui.
Si c'est à cause de la couleur par exemple.
La couleur, ça va encore.
Bah oui. Donc ils m'envoient la liste, ils me disent voilà, il y a ça et ça va faire tant. Il faut que je sache si.
10 minutes.
Au niveau du budget, je suis bien.
Jean-Luc Michel.
Oui, une société que je connais par le biais d'amis qui ont commandé chez vous. Et ils ont réalisé des caves.
Oui.
Des caves avec les panneaux. Je suis allé visiter une fois terminé. C'est vrai que c'est assez bluffant. Mmh. À la fois sur la capacité à retenir la chaleur, notamment avec la montée des chaleurs qu'on connaît aujourd'hui. Et... alors, il y a à la fois la qualité du matériau, mais je voulais revenir sur l'entreprise, parce que le retour que j'ai eu, moi, c'est plutôt une entreprise familiale, très sympa. Vous allez les voir, ils sont à l'écoute, et vous avez bien décrit les choses tout à l'heure.
Merci.
Et c'est le retour que j'ai eu, donc n'hésitez pas si vous avez un projet perso sur de l'isolation en toiture ou sur les murs. C'est l'entreprise qu'il vous faut, parce qu'en plus, elle n'est pas chère.
Madame Amus, est-ce que vous posez les panneaux, etc.? Est-ce que vous faites tout, ou est-ce que vous vendez que les panneaux?
Alors moi, je vends les panneaux isothermes avec tout ce qui est accessoire de pose. Donc
oui.
Quelqu'un de lambda peut faire la pose soi-même. On explique, on guide au téléphone. Et après, il y a mon mari qui s'est mis à son compte il y a 5 ans pour faire la pose de panneaux isothermes. Donc, soit il ne travaille pas avec moi, soit il travaille avec d'autres. C'est pas très bien.
Ça arrive qu'il travaille avec d'autres?
Pas pour l'instant, j'ai pas encore eu le cas, mais ça peut.
J'espère pour lui.
C'est ouvert, il a le droit.
Il a le droit.
Bien sûr.
Qui sont vos clients?
Tout le monde.
Tout le monde. Vous, pour votre cabanon de jardin. Vous, pour
c'est
votre
cave. C'est quoi? C'est les particuliers?
Vous,
c'est les maîtres d'œuvre? Les architectes?
Ça peut être un petit fromager qui veut faire une cave pour ses fromages dans le fond de sa cave. Ça peut être une grosse entreprise comme l'atelier du poissonnier qui fait des rillettes de poissons.
Donc on va prendre l'exemple du petit fromager. Il fait quoi? Il pousse votre porte, il vous dit bonjour, il dit j'aimerais bien un petit bâtiment.
Ou je veux isoler ma cave, donc il me faut tant de plaques. Alors on dit attention, il faut pouvoir passer les plaques avec l'escalier. Donc, ah oui, senti.
Donc il y a l'expertise.
Ouais,
le... Il y a une expertise.
Pas forcément expertise, mais on a tellement l'habitude que c'est plutôt un savoir-faire et des conseils qu'on donne aussitôt.
Un savoir-faire, voilà.
Donc ils font quoi les gens avec, avec vos panneaux ?
Et ben, ils assemblent les uns dans les autres, un côté mâle et un côté femelle.
Oui.
Et puis ils mettent le plafond de la colle.
D'accord, c'est autoporteur.
Oui, c'est autoporteur. C'est, comme c'est rigide. Alors, vraiment le contraire du placo. Le placo va pouvoir l'amener, il va pouvoir prendre une forme.
Oui, mais lui, non.
Le panneau, pas du tout.
Non.
Donc, il faut prévoir justement de la marge.
Il y a quoi à l'intérieur entre les deux ?
De la mousse polyuréthane.
Oui.
Donc, la mousse polyuréthane, c'est pas très écolo. Je suis désolée. Mais c'est très isolant. Et ça permet vraiment de garder les calories. Et... Oui. Ma maison, j'ai mis du panneau partout. Dans le sol et dans les murs. Voilà. Après, j'ai remis du placo par-dessus.
Et par rapport à de la laine de verre ou de la laine de roche, c'est quoi la différence ?
Au
niveau de l'isolation.
Un pouvoir isolant un peu différent, qui va être pas forcément supérieur, mais qui va être plus phonique pour le bruit et qui va être anti-feu. Voilà. Il y a le côté, ça ne peut pas brûler complètement. Par exemple, ma maison, bah, derrière le poêle à bois, j'ai mis deux panneaux en laine de roche. Comme ça, hop, je suis sûre qu'il ne peut pas y avoir d'incendie. La mousse, elle ne va pas fondre.
D'accord. Voilà. Vous avez également une machine, je crois, une grosse machine qui est très longue. Expliquez-nous ça.
Alors, 18 mètres de long. Donc, il y a en 2016, on a investi dans une machine pour fabriquer le bac acier. Donc, on achète des grosses bobines de tôle, soit en neuf, soit en déclassé. Et on les passe dans la machine. Donc, la profileuse, elle canne la tôle pour obtenir au bout, en bout de ligne, la tôle de toiture bac sec à la longueur sur mesure pour les clients. Donc on la programme quand on a la commande du client, contrairement aux autres qui s'amusent à faire du standard.
Donc vous, c'est du sur mesure.
On fait du sur mesure.
Je vous demande une plaque de 2,75 m avec 3 mm derrière.
Oui.
Vous me sortez cette plaque-là.
Voilà, au centimètre près.
Au centimètre près.
Un centimètre de marge.
Un centimètre de marge, ouais. C'est toujours le cas ou...
Oui, oui. Ou on met un centimètre de plus. Tout le temps.
Pourquoi ?
Parce que le réglage de machine, si jamais, au moment où ça coupe, le métal il se replie un petit peu, ou si le client s'est trompé, on a un petit centimètre de marge, c'est pas mal.
C'est quoi la part entre le bac acier et c'est bac acier, enfin, le bac acier
Bac acier, c'est une marque.
Oui.
Donc là, ce sont des tôles de toiture.
D'accord.
Voilà, on appelle ça du bac sec, bac...
Et dans les tôles de toiture et les plaques différent. Isolées, c'est quoi la part de marché que vous avez ? Enfin, la part de marché. Qu'est-ce qui rapporte le plus ou qu'est-ce que vous faites de plus ? C'est le bac sec ou c'est les...
Non, on pourrait parler en pourcentage. On fait 40% de panneaux, 20% de portes, de chambres froides, parce qu'on fait tous les accessoires et les portes. 20% de tôle et voilà, je suis à peu près. Et après, les accessoires.
Alors, il y a d'autres choses en vente aussi sur votre site internet. Okay. Il y a toute la panoplie pour construire en fait.
Voilà, nous on vend les matériaux. Donc, panneaux de bardage, panneaux de toiture, panneaux de congélateur,
Alors, les chambres froides, c'est quoi ?
Les plaques PVC aussi, on n'en parle pas. Les plaques PVC, c'est pour réhabiller les murs quand ils sont abîmés. Donc, hop. Plaque PVC. Et puis, je sais pas moi, les portes et.
Vous vendez aussi des portes.
Et des groupes de froid si on veut aussi.
Tout équipé, enfin.
Oui. Des petits groupes en monobloc. Parce que...
C'est quoi un monobloc ? Parce que vous avez fait affaire à des néophytes ici.
Alors, les monoblocs sont des petits groupes de chambres froides ou de cave à vin qui sont un gros boîtier qui se pose sur les parois et qui se branche sur le courant. Et terminé, ça fabrique le froid.
C'est un peu comme une clim, quoi.
C'est comme une clim.
C'est une pièce.
Mais en un morceau.
En un morceau.
C'est pour ça qu'on dit monobloc.
C'est ça.
Sinon, c'est des,
ça, c'est,
des splits.
C'est,
hein, deux
c'est clé en main, ça, ou c'est au client de fabriquer ?
Bah, il faut faire le trou, poser et brancher. Il y a quatre vis à mettre, c'est terminé.
C'est ça.
Voilà, très simple. Par contre, ça a un coût. C'est un peu plus cher qu'un vrai groupe de froid avec deux éléments, une partie qu'à l'intérieur avec l'évaporateur et une partie qu'à l'extérieur avec du câblage.
Oui.
Donc mon mari a embauché un frigoriste. Donc maintenant, il est en mesure d'offrir la possibilité de vendre des groupes de froid pour des grosses cellules. Il a fait des grosses... un abattoir récemment. voilà.
Vous livrez également, je crois.
Oui. On a deux petits 3,5 tonnes pour faire toutes les livraisons d'appoint. Livraison un peu compliquée, avec des routes qui ne sont pas toujours accessibles, avec des gros camions. Et on a un gros camion pour faire les grosses livraisons, mais on s'en sert beaucoup moins parce que Notre zone de chalandise s'étant réduite, en général,
pourquoi
on fait plutôt appel à un transporteur quand c'est loin.
Et pourquoi ça s'est réduit ?
À cause du coût du gasoil,
oui,
essentiellement, qui a tellement augmenté que ça a impacté le prix du transport. Et le prix du transport augmente le prix des panneaux. Et comme on est censé vendre du pas cher et du déclassé, si on y met le double du prix en transport, c'est plus valable.
Et la concurrence ?
Et la concurrence
de plus en plus
bien sûr.
Chinoise ?
Non, pas chinoise. Non.
Pas chinoise, non ?
Non, non, la concurrence, j'ai...
Non, ça peut être très bien des fournisseurs qui achètent en Chine.
Des usines dans le centre de la France qui sont installées, qui vendent un peu comme moi et qui font...
qui nous ont copié.
Qui nous copient un peu.
Vous voyez comment l'avenir ?
L'avenir, j'espère continuer et... Et oui, non, je vais pas construire un building et faire une multinationale, mais j'ai bien l'intention de continuer à développer gentiment...
À
taille humaine.
12h25 sur CFM, on marque une pause et on revient très vite.
Merci.
CFM. On en parle sur CFM.
12h29, on en parle sur CFM avec André Peuramant, Christian Brotteland, Evelyne Louis, Lucie Le Gallet et Jean-Luc Michel, Casimir Musinski, mes deux sociétaires du jour. J'ai écorché personne. Ça a été presque, on va dire. Alors, on va faire une petite présentation de votre association, c'est Wikimanche. Qui a eu l'idée ? Est-ce que la personne qui a eu l'idée est là ?
Alors, le site Wikimanche est né avant l'association. Wikimanche a été porté donc par le Conseil Général à l'époque, en 2007. Et deux mois plus tard, l'association a été mise en route pour donc porter le Wikimanche par ses modérateurs. C'est... Parce qu'il a fallu des modérateurs pour, donc, à l'exemple de Wikipédia, pour corriger et lire tout ce qui allait être mis en ligne sur le site.
Donc c'est une volonté du Conseil Général, maintenant Conseil Départemental, qui a mis ça en place, c'est ça ?
Au tout départ, oui.
Au tout départ, oui, et vous avez repris, vous avez créé une association pour reprendre...
Pour reprendre les commandes.
Pourquoi le département s'en était...
C'était parti, peut-être orienté, non ?
Il voulait plus le faire ou pas ?
Ah si, il était toujours là, étant donné qu'il nous donnait... il nous prêtait le serveur pour donc stocker nos... le site, et le problème, il n'y a pas eu de problème avec le Conseil Général, mais il laissait donc autres contributeurs la main sur le site.
D'accord. Combien de membres dans l'association ?
Là, actuellement, de membres dans l'association, nous sommes 23.
Ouais.
23, 24 à peu près. Mais en contributeurs depuis l'existence du site en 2007, nous sommes à peu près un peu plus de 1000 comptes créés.
Alors, ça marche comment, le contributeur et les membres ? C'est quoi la différence ?
Les membres de l'association sont pratiquement que des contributeurs déjà, premièrement, des modérateurs.
C'est des hautes volées, non ? C'est ceux qui font beaucoup de travail ?
Oui.
Oui.
Bah, moi, déjà, j'en ai fait pas mal. Christian également. Et Evelyne aussi.
Elle nous rattrape.
Et on a des contributeurs réguliers.
D'accord.
Et des contributeurs qui sont que de passage.
C'est-à-dire ?
On les voit qu'une fois, ils ont un centre d'intérêt qu'ils veulent mettre en avant sur la Manche. Et donc, ils contribuent, ils vont créer un article.
Il y a quelque chose pour le 80e ?
Sur Wikimanche, on a répertorié tous les événements qui vont avoir lieu sur la Manche. Sur la Manche, toujours.
D'accord.
Donc, lors des commémorations du 80e.
Vous recrutez des rédacteurs ou...
On ne recrute personne.
Quand je dis recruter, vous cherchez des personnes pour devenir contributeurs ou vous êtes assez ?
Vous estimez que vous êtes assez ? C'est votre antenne qui ouvre une des portes. On appelle donc les gens à venir sur le site, voir le site. Et après, suivant le centre d'intérêt qu'ils ont, eux, à participer donc à l'élaboration d'un article. Bon, c'est vrai que c'est pas évident au départ.
Comment on devient contributeur ?
Alors, il faut déjà créer un compte.
D'accord.
Donc vous créez un compte et c'est Christian donc qui va donner l'aval avec un mot de passe parce que on a eu des problèmes.
C'est gratuit.
C'est gratuit, nous dit Christian.
Voilà.
Donc ça veut dire je crée un compte, mon email, un mot de passe.
Un profil
et vous acceptez directement que je puisse écrire ma page.
tout à fait.
Ouais, il n'y a pas nous. Besoin de montrer patte blanche, n'importe qui peut...
Bah, on vérifie quand même un peu sur le, l'identité.
Il y a une petite enquête, enquête de, on va dire de proximité.
Même pas.
Non.
Je regarde le profil un peu.
Des enquêtes de notoriété.
Sur le web, et puis après, voilà, je crée le compte. C'est moi qui crée le compte. Mm-hmm. Et puis, genre, le serveur envoie automatiquement les données au.
D'accord. Au futur compte. Donc, une fois que le compte est créé, je peux commencer à taper mon article.
Oui, tout à fait. Et une fois que l'article, vous pouvez le mettre en ligne directement. Donc, il n'y a pas de contrôle.
Mais on peut écrire n'importe quoi à ce moment-là. C'est dangereux. Si vous avez quelqu'un un peu de déviant sur le plan mental ou autre, il n'y a pas de risque.
On l'a eu.
Ah, vous avez déjà eu.
On l'a déjà eu. Et donc la création de compte fait qu'on a une main dessus. Donc c'est ça, donc on a la main, sur le contributeur. Mais, et sur son article aussi, parce qu'il va paraître, là je vais dire, il est 12h30, il va paraître à 12h30. Mais dans les minutes qui suivent, on a une vue sur les modifications récentes, c'est-à-dire sur la contribution. Et chaque modérateur peut lire l'article et vérifier les sources. Et on peut supprimer l'article.
Et ça vous est arrivé de passer à côté ?
Pour l'instant, je n'ai aucun cas où on est passé à côté.
Il n'y a pas un système de validation où un modérateur dit « Ok, l'article a l'air propre, donc on met en ligne. » Ce n'est pas un peu dangereux de pouvoir écrire quelque chose qui soit après vérifié, mais qui est quand même sur les réseaux pendant quelques instants.
Ça ne dure pas longtemps.
Oui.
Non, puis là, ce qui les calme, les vandales, c'est que...
Les hackers, enfin les vandales, ceux qui...
Ouais, ce sont des vandales. Je parle plus de vandales que de hackers.
On a eu du vandalisme au début de Wikimanche.
Oui.
Mais c'est-à-dire que les comptes étaient créés directement sur le site. Donc il y avait des adresses IP ou des pseudos. Mais maintenant, vu qu'il il faut faire une demande de création de compte, mmh, et que c'est un administrateur, donc déjà on a la vue sur le pseudo, et puis sur l'adresse de courriel qui est associée au pseudo. Et donc on sait, voilà, on a déjà verrouillé ça. Par rapport, quand on est passé à ce système-là depuis 2014, on n'a plus eu de vandalisme sur Wikimanche.
Il y a des gens que vous refusez ?
On en a refusé un.
C'est tout, ça reste correct en fait.
Ouais,
un sur combien ?
C'était un mythomane.
Un
sur 1100 contributeurs.
Ah oui.
Ça arrive que quelqu'un écrive un
article. Donc vous avez 1100 papiers d'écrit et un seul qui a été, comment dire, perturbant.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Enfin, sur les 1100 contributeurs, il faut savoir quand même que sur le site, nous avons plus de 25 000 articles. Donc, et il s'enrichit tous les jours. Actuellement, pratiquement par jour, nous avons à peu près une dizaine d'articles qui sont créés tous les jours. Mais ce sont des articles qui sont propres à quelque chose que nous avons lancé il y a quelques mois. C'est le dictionnaire Manchois. On a un dictionnaire, donc du parler manchois. Et donc tous les jours, on a une dizaine d'articles qui paraissent sur un mot.
D'accord. Et là aussi, vous faites un recoupement, vous regardez si c'est vraiment vrai. Il y a un spécialiste chez vous de la
linguistique. Oui.
Ouais, on en a un pour l'instant. Donc on fait appel aussi aux linguistes qui peuvent nous rejoindre pour l'épauler sur ce système-là. Quoi.
Ça arrive qu'une propre personne s'inscrive, devienne membre pour écrire sur lui.
On en a eu, oui.
Oui.
Mais bon, c'est toujours encyclopédique. Hein, c'est... Donc on a beaucoup de sources. Hein, c'est les journaux hein, qui sont... La majorité de nos sources. Hein, voilà.
Des déboires judiciaires sur un article qui aurait été écrit
On a déboires judiciaires, on n'en a jamais eu.
Ouais.
On a eu un seul problème un jour sur une photo, parce qu'il faut savoir que toutes les photos qui sont mises sur Wikimanche sont libres de droit.
Oui, il faut qu'on vous donne autorisation en fait, que la personne vous donne autorisation.
Voilà. Mais le problème du droit à l'image. Comme c'est arrivé, la photo illustrait un article, et c'est un cabinet d'avocats qui a écrit au site, en nous disant la photo, là, il faut la retirer, autrement il y aura des poursuites. Ça a été fait
c'est la seule chose.
Dans la minute. Voilà. On a rayé la photo et puis on a fait une autre photo. Et...
D'accord. Jean-Luc Michel.
Oui, une association de la Manche. Qui permet de consulter des articles sur le département, Donc, du coup, est-ce que vous êtes sponsorisé toujours par le département? Est-ce que vous touchez des subventions?
Ah, c'est financement, ça.
Et quel est votre budget annuel pour... parce qu'il faut développer le site toute l'année avec...
Tout à fait.
25 000 contributions d'articles, donc du coup, il y a un coût, je suppose.
Oui, tout.
Il faut avoir un serveur, il faut louer de l'espace numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Parce que tout ça étant gratuit, à un moment donné, il faut aller chercher...
Il faut un peu d'argent.
Chercher alors, les ressources quelque part.
Alors, il faut savoir que nous, en tant que membres de l'association, nous versons donc de l'argent, une cotisation tous les ans. Et il est vrai
c'est
que la petite cotisation est de 10 euros.
Bon, ça va.
Alors, vous savez, on n'est que 23.
Oui.
Donc, ça fait 230 euros de finances
bon
qui
calcul.
Nous rentrent. Voilà, c'est très succinct.
Comment on fait vivre une asso à 230 euros?
On a eu 160 euros de dons.
On peut donner comme sur, voilà, sur votre grand frère, voilà. On va dire le grand frère au niveau mondial, qui demande de temps en temps.
Eux, ils ont un flux d'argent assez important.
Oui.
Nous, jusqu'en quelle année?
2016.
En 2016, on était hébergés par le département,
mm-hmm.
enfin par une des antennes du département, d'accord. jusqu'au moment où donc il a fallu, on s'est séparé du département au niveau du serveur, parce qu'il n'avait plus les capacités de nous héberger. Et nous sommes tournés vers une société donc qui est basée à Granville, la société Factor FX, qui en tant que mécène nous assure donc les serveurs et la technicité, parce que nous ne sommes pas des techniciens donc de l'informatique. Nous ne sommes que des contributeurs modérateurs.
Mmh.
Et donc, tout ce qui est partie technique...
Donc, c'est ce mécène qui, lui, met en page, en code, en fait, on va dire,
voilà.
Tout.
Non, c'est le moteur, le back-end, ils appellent ça, c'est comme Wikipédia, hein, c'est le MediaWiki, hein, c'est le moteur informatique qui sert à créer des pages. Hein. Derrière, il y a une base de données et tout ça. Donc, c'est eux qui entretiennent ce système-là. Mais sinon, les pages, c'est nous qui créons.
Oui, vous créez le contenu,
voilà,
mais
voilà.
Eux créent l'environnement.
Voilà, c'est l'environnement, voilà, c'est et donc et ils dispatchent sur les serveurs.
D'accord.
Il y a trois serveurs. Hein.
Oui, il y a trois serveurs. C'est sauvegardé à trois endroits.
À trois endroits différents.
Voilà,
parce que pour ne pas
la redondance,
avoir ce qui
on va dire.
S'est passé,
bien sûr.
Il y a eu le feu chez
OVH.
À Strasbourg.
OVH, oui.
J'ai eu la chance, j'ai pas eu de problème.
Donc, avec 230 euros, vous en sortez?
Oui.
Vous n'avez pas.
Non, on n'a pas de.
Vous n'appelez pas
on
des dons.
Les,
vous organisez pas des soirs.
Le département n'intervient pas.
Alors le
part.
Département est intervenu à un moment au départ à 1000. C'était 1000 euros par an normalement.
Oui.
Bon, ça s'est délité à un certain temps parce que ils avaient donc ils nous c'est eux qui amenaient la technicité et le serveur. Donc la partie des 1000 euros c'était fini.
Mais vu qu'ils redonnaient, enfin, voilà. Vu que vous n'étiez plus chez eux au niveau serveur, ils n'auraient pas pu donner un petit peu d'argent pour compenser? Ils ont pas. Vous avez demandé?
Ah, voilà, faut qu'on maintenant, oui, faut qu'on.
Est-ce que vous demandez tous les ans une subvention?
On a fait des demandes de subvention auprès des collectivités locales.
À l'époque où c'était payant, parce que pendant une période, ça a été payant notre.
Le serveur pour vous.
Notre service.
Donc là, c'était à deux doigts de.
Ben voilà, donc. Et on a eu la chance de trouver Factory Fix qui nous a permis de.
Continuer.
Et donc là, vous n'avez aucune subvention de personne.
Là, cette année, on n'a aucune subvention. On n'a même pas demandé de subvention. Voilà. Parce que le problème de Wikimanche, c'est le département.
Mm-hmm.
Et vous savez comment sont gérées les subventions dans les communes.
Mm-hmm.
Les communes, il faut être attaché à la commune pour demander des subventions.
Oui, oui, mais on pourra avoir une subvention.
Si je demande à Coutances, je ne fais pas partie de Coutances.
Oui.
Ou alors il faudrait demander à 601 communes des subventions. De la plus petite
au
à
département.
La plus grosse.
Au département.
Et au département.
Pas. Le département
pourrait... Et au département.
Oui. Il pourrait prendre en charge une...
Mais comme maintenant, si vous voulez, nos frais ne sont que de la communication.
Vous êtes tenté par la pub de mettre des petites bancs, un petit peu de pub sur le
on
site?
On y a pensé et on n'a pas voulu.
Pourquoi? Vous pensez que vous êtes plus
on serait,
indépendant.
On serait plus indépendant.
C'est ça.
Voilà. Regardez, vous parliez de notre grand frère Wikipédia.
Oui.
Ils n'ont pas de publicité.
Oui. Mais ils demandent des contributions et apparemment ça marche. Vous avez
c'est des dons. Ils font
des dons.
Ils demandent des dons.
Et vous, les dons, ça marche?
Nous, c'est marqué sur la page de GA. Notre pages de garde, il y a donc adhérer ou faire des dons.
Oui.
Une entreprise peut faire un don.
D'accord, et c'est défiscalisé, je crois, à 60%. Donc,
voilà.
Donc vous appelez les entreprises, les particuliers à vous faire un don.
Tout à fait, comme c'est indiqué sur notre page de garde.
Alors vos dons cette année, ce sont, enfin l'année dernière, ce sont des, on peut les évaluer à combien ?
On a eu 160 euros.
160 euros.
Voilà. De et 250 euros d'adhérents, puisque 25 adhérents à 10 euros.
Ça nous fait 410 euros dans l'année.
Oui.
Voilà,
ouais. Combien de pages vues ?
Ah, les
par
pages
mois
vues,
ou par semaine.
Alors, je vais parler par année. Hein.
D'accord.
Plus de 2 millions de pages vues de l'année dernière. Mm-hmm. Par donc à peu près 846 000 visiteurs.
D'accord, et en faisant et la moyenne par jour, vous avez fait le calcul ?
Non.
Ça doit faire du monde, déjà.
8 000...
Bon, on va demander à quelqu'un de faire le calcul.
Ça doit faire un peu plus de 2 000, je crois.
Est-ce 2 000 par jour. Quelque chose qui vous donne une moyenne de temps ? Combien de temps les gens ont passé sur votre site ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui cliquent et qui repartent. Et y a des,
en général, oui,
qui restent pas, quoi.
Qui restent pas, qui lisent pas tous les articles.
On a, en tant que visite, ça dure pas très longtemps.
On vient chercher son information.
Les gens viennent chercher l'information et repartent.
Oui, mais vous avez un temps qui est donné.
Il y a quand même un temps.
Un indicateur.
C'est le temps de lecture, Jean-Luc Michel.
Oui, je pense que vous auriez quand même intérêt à revoir Jean Morin, parce que en termes de com, il faut savoir que le département, il consacre des sommes colossales. Et il a raison, hein, puisque aujourd'hui, vendre son département, faire venir par exemple des entreprises, des citoyens sur notre département, c'est primordial. Aujourd'hui, on sait que ça fait partie des politiques publiques. Et vous apportez une image pour le département de la Manche qui est quand même très importante, puisque on retrouve au travers de vos articles l'histoire, le présent, etc. Moi, je pense qu'il faudrait rencontrer Jean Morin, parce qu'on l'a rencontré, il est venu à cette antenne. Vous êtes un maillon de l'information de ce département. Bon, il y a eu les péripéties, effectivement, que vous avez rappelées au moment de la création de l'association, avec la prise en charge, et puis ensuite, ils se sont désengagés. Mais moi, je pense que vous méritez, parce que d'abord, vous êtes sur le terrain depuis longtemps, donc vous avez une certaine assiduité sur les informations de ce département, et je pense que là, le département doit au moins vous accompagner, parce que vous faites un travail extrêmement important.
On vous donnera 2-3 adresses. 12h46, on marque une courte pause et on revient avec vous.
CFM. On en parle sur CFM.
12h48 sur CFM, nous sommes avec l'équipe de Wikimanche, André, Christian et Evelyne. Lucie Le Gallet est également avec nous, nos sociétaires du jour Jean-Luc Michel et Casimir Musinski. Alors on revient avec vous, quelles sont les pages qui ont le plus de succès sur Wikimanche ?
Ah, alors là, vous allez rire, enfin rire non pas trop, mais ce sont les 5 guérisseurs de la Manche.
Ah !
C'est la page la plus vue.
Pourquoi ?
C'est pas
spécifique à la Manche.
On manque de médecins, voyons, donc voilà. On va voir les 5 guérisseurs. Et puis, il y a une façon aussi de voir les 5 qui guérissent, ceux qu'on touche et qui vous font du bien, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Donc les 5, et après ?
Après, nous avons les personnalités de la Manche.
Oui.
Donc, on a un panel de personnalités, quand même, sur Wikimanche, qui sont développées. Mmh. J'allais dire, les personnalités politiques qui vont du maire jusque donc au président de la du département, mais on a aussi, quand je parle des maires, on a l'historique des maires depuis la création des maires en 1792 jusqu'à maintenant.
D'accord.
On a la liste de tous les maires de toutes les communes, par exemple.
C'est bien. Donc les maires sont importants dans l'ordre.
C'est la base. C'est
les personnalités. Est-ce que vous ressentez un engouement sur vos pages quand il y a un événement là, je parle de Pierre Garnier, le chanteur qui a fait la Star Academy, qui a remporté. Je suppose qu'il est, il a intégré le. Est-ce qu'il a intégré Monsieur Pierre Garnier ? Ah, Monsieur Pierre Garnier n'est pas dans.
Non, par contre.
Non, oui,
je peux. Une anecdote quand on a eu l'affaire de Nisna en Afrique du Sud. Hein, l'équipe de France qui est restée dans le bus.
Oui.
Sachez quand même que Wikimanche était la seule encyclopédie ou le seul média où il y avait donc le comment il s'appelle le président de la...
Jean-Louis Valentin.
Jean-Louis Valentin, oui. Président donc de Valogne,
ouais.
De la communauté de Valogne, qui était donc dans le staff,
ouais.
Et on était la seule...
Avoir les vraies infos, ou les bonnes infos.
Les vraies infos.
Ouais.
Et ce jour-là, on a eu plus de 5000 visites, quoi.
Ah, ça vous
tous les médias sont venus chercher l'information.
D'autres choses, quand il y a le Mont-Saint-Michel, une organisation Mont-Saint-Michel, est-ce que vous sentez des choses qui... Là, on va voir la flamme qui va passer bientôt.
On a créé un article,
ouais.
Sur ça.
Ouais. Ouais, le Tour de France aussi, on a eu donc pas mal de...
Voilà, on a développé les trois étapes du Tour de France de 2016.
Ouais.
Donc le Mont-Saint-Michel, bon, ben là, on a plus qu'il en faut.
Les manifestations qu'il y a dans le département.
Ouais, donc, oui, sur la page d'accueil, on a donc les dates importantes des, oui, manifestations qui vont venir.
D'accord.
Vous avez aussi sur donc la page d'accueil les anniversaires, donc depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. Le naufrage, aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un truc sur le naufrage du Guernesey, mm-hmm, dans un bateau qui avait fait naufrage le 19 avril. Je ne pourrais pas vous donner la date
précise,
mais c'était le 19 avril, par exemple. Bon, tous les jours, ça change. Donc, on a les anniversaires, on a des choses comme ça sur la page de garde, toujours. C'est, et puis, donc, le lien vous amène après sur le naufrage, par exemple.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous arrivez au bout?
D'accord.
Au bout du système, parce que des personnes connues, bah, elles sont connues. Non, c'est.
On arrivera.
Vous arrivez
au bout
toujours
du bout.
À trouver des choses qui peuvent peut-être être moins importantes, non?
Il y a toujours. Là, en ce moment, par exemple, bah, je reviens encore au maire. Hein. On a donc un étudiant de Caen qui tous les jours renseigne la biographie d'un maire.
D'accord.
Mais en lien avec donc des parutions dans les journaux.
Mm-hmm.
Et il en fait au moins 5 à 6 par jour.
Donc c'est inépuisable.
C'est inépuisable.
D'accord. Au niveau référencement, vous faites comment? Le référencement pour vous trouver sur Internet, ça, c'est pas facile.
C'est vous tapez Wikimanche, vous arrivez dessus.
Non, c'est si pas Wikimanche. Moi, je cherche le maire de Tolva. Est-ce que en tapant son nom, je vais arriver sur votre site à vous?
Vous tapez son nom et Wikimanche derrière, oui.
Ah oui, mais si,
oui,
on,
mais...
on met que son nom.
Que son nom,
pas,
oui.
Sur
Wikimanche. Bah,
je l'avais jamais vu avant votre,
oui,
site. Hein.
Mais en général, ouais, les maires de la Manche, vous tapez avec leur nom.
Travailler le référencement, voilà, c'est ça.
Voilà, le référencement, c'est de la com, ça.
Voilà.
Ah oui, on a du SEO, on a un SEO.
Ouais. Ouais,
mais...
Combien de temps ça vous prend par jour? Ah,
beaucoup. Bah, tout dépend des parutions, déjà. Mm-hmm. Enfin, en tant que travail de modération, hein, tout dépend donc du nombre de parutions dans la... Et puis de la lecture qu'on peut faire sur d'autres articles.
Mm-hmm.
Parce que bon, on peut relire des articles pour les remettre en forme aussi.
D'accord.
Hein, pour rechanger un peu.
Il y a beaucoup de fautes. Des fautes d'orthographe, non, ça va?
Non, dans la mise... les gens qui contribuent font peu de fautes.
Oui.
Bon, après, c'est juste que des liens qu'on doit mettre dans les articles pour les relier à d'autres articles, quoi.
Quelque chose à rajouter pour faire venir, pour attirer les gens à vous, des contributeurs, des visiteurs?
Les gens qui ont, comment dirais-je, des renseignements sur leur histoire, l'histoire locale de leur petit coin, leur petite ville, leur petite commune, qui viennent sur Wikimanche, de toute façon, qu'ils mettent tout en brut sur le site,
mm-hmm,
et nous, on sera là pour la mettre en forme.
D'accord.
C'est pas un souci. Et s'ils avaient vraiment un souci, il y a toujours le contact de Wikimanche où ils peuvent...
C'est un téléphone ou c'est un mail?
Non, c'est un mail.
Ou un formulaire, peut-être.
On a un courriel. Non, c'est pas...
C'est un courriel.
Non, c'est une adresse mail, hein, contact@wikimanche.fr.
Pas de téléphone? Non. Faut éviter.
Oui, on évite. Mais je le donne pas de...
Y a-t-il Jean-Luc d'autres Michel. Départements qui ont cette même démarche? Alors, avec Wiki Calvados,
Wiki
Pas-de-Calais ou je ne sais quoi?
Voilà.
Est-ce que ça existe ailleurs que dans la Manche?
Ça existe ailleurs dans la Manche, notamment donc en Côte d'Armor. Il y a un site en Côte d'Armor. Il y a eu d'autres sites. Il y a Wiki Rennes, par exemple, donc, qui est propre à Rennes. On a donc Picardia aussi, mais donc pour la Picardie. Mais nous sommes les seuls au niveau des départements.
L'Anjou, oui.
Et l'Anjou, donc, qui est une région aussi. Hein.
Oui, qui Anjou, voilà. Est très bien aussi.
À une époque, on avait, il y avait un moteur sur Internet qui nous permettait de voir notre positionnement au niveau mondial. Mmh. Et nous étions dans les... Wikimanche se situait, était 13e au niveau mondial, voilà, des wikis territoriaux.
Bravo à vous. 12h56, on marque une courte pause et on revient très vite sur CFM.
CFM. On en parle sur CFM.
12h58, on en parle sur CFM avec l'équipe de Wikimanche, Lucie Le Gallet à MLux et oui, nos deux sociétaires du jour, Jean-Luc Michel et Casimir Musinski. C'est avec vous que on va poursuivre, et même madame, hein, madame Louis, qui est ici, elle m'a raconté tout à l'heure qu'elle a été au procès. On va parler du procès de Greenpeace, EDF Greenpeace. Qui peut faire un résumé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Tout simplement, il y a eu une intrusion au sein de la centrale de l'EPR de Flamanville par l'ONG Greenpeace. Il y avait donc
c'était quoi ?
des membres qui sont introduits dans l'enceinte de l'EPR. Mm-hmm. Donc, faut savoir, alors, pourquoi ils se sont introduits dans l'enceinte ? S'ils étaient restés à la porte, personne n'aurait entendu parler de leur action. Donc à un moment
donné... Il y en a aussi qui ont bloqué l'accès.
Ils ont bloqué aussi l'entrée. Hein.
C'est l'explication. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois bloqué l'entrée, mais ils sont rentrés à l'intérieur de l'enceinte. Ouais. Ce qui fait que ça a eu une portée forcément nationale. Mais du coup, le 31 mars 2022, cette intrusion a fait l'occasion du dépôt de plainte par EDF. Mm-hmm. Et nous avons eu... à Cherbourg, effectivement, le procès. Hein, et là, on a EDF qui demande des sommes faramineuses.
Un million. Un million d'euros.
Et la condamnation des gens qui se sont introduits à un an de prison.
Avec sursis. C'est ce qui a été requis par le procureur.
On verra au mois de mai, le 14 mai. À quoi donc seront condamnés à la fois Greenpeace, mais aussi les membres qui se sont introduits dans l'enceinte de l'EPR. Donc c'est en délibération et on aura le résultat à 9h le 14 mai 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, l'avocate Marie-Josée Doré, qui est donc qui a plaidé la relaxe en invoquant la liberté d'expression et le souci que nous avons, c'est que par cette condamnation...
Il n'y a pas encore eu de condamnation.
Non, mais par cette demande de condamnation lourde, on verra ce que dira le tribunal, mais en fait, on veut tuer... Le droit d'expression de Greenpeace, c'est comme ça que Greenpeace, d'ailleurs, l'a considéré, et dénonce une procédure bâillon, c'est-à-dire on veut les bâillonner par
On n'ira pas jusque-là, Pierre-Yves Marot, qui est procureur de la République à Cherbourg, a demandé 800 euros d'amende et 2 ans d'interdiction de pénétrer sur le territoire de Flamanville, pour 7 d'entre eux, et pour 7 autres d'entre eux, 500 euros d'amende et 1 an d'interruption. Et donc ça nous fait environ 1300 ou 1400 euros d'amende au total. Oui, et c'est quand même très différent du 1 million d'euros que demande EDF. Alors EDF, par là, qu'est-ce qu'il fait? Si on veut boucler quelqu'un ou l'embêter, on le prend au portefeuille. C'est classique.
Oui,
et c'est
ça.
C'est quand même une démarche tout à fait intelligente de l'avocat et d'EDF. Mais EDF, qu'est-ce qu'il a à dire là-dedans? On a commencé par faire un EPR à 2 milliards d'euros. On est rendu à 20 milliards ou 25 milliards d'euros. De qui se moque-t-on? EDF, de qui se moque-t-il? On a perdu un savoir-faire extraordinaire. On n'a plus de soudeurs. On a des soudeurs américains. Quand on veut venir des produits de l'Est de la France, là, comme l'usine qui fabrique ça, Framatome ou autre, eh ben, on n'a pas les gens ad hoc et qu'ils ont perdu un savoir-faire. Donc, en conséquence, on ne doit pas se plaindre et penser que EDF, quelque part, a la main lourde.
Madame Louis, vous y étiez au procès?
Tout à fait.
Ça s'est passé comment?
Sereinement, ça, évidemment, on respectait le tribunal, tout a été très, très bien mené. Ça.
Il y avait une manifestation dehors, je crois.
Non, c'était un soutien amical.
J'ai dit une manifestation, j'ai pas dit que c'était violent. Un rassemblement, on va dire, c'est
votre préféré. Un rassemblement amical pour soutenir nos camarades. Quand on est militant, on se met à leur place.
Vous comprenez les peines qui ont été demandées par EDF?
Non, c'était un procès tout à fait politique. D'ailleurs, c'était une tribune politique pendant tout le procès. Ça a été passionnant, très intéressant. Donc, on invite même les personnes qui veulent venir voir le 14 mai le verdict. C'est toujours instructif, ces procès. C'est très au tribunal de grande instance de Cherbourg. C'est quand même très émouvant et c'est très instructif et on voit comment on est bâillonné.
Alors, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation.
Dans le contexte, il faut se rappeler quand même qu'à Belfort, le président de la République relançait le nucléaire et que l'intrusion le 31 mars, elle n'est pas arrivée par hasard. Hein. C'est aussi marqué son désaccord sur la relance du nucléaire en France. Donc voilà. Alors après, effectivement, on s'introduit dans un lieu où on n'a pas le droit de pénétrer. Le propriétaire porte plainte. On verra le 14 mai, mais on s'est pas introduit dans l'usine de La Hague à l'EPR, à Flamanville, l'EPR, par hasard. C'était aussi dans le contexte politique de l'époque, du mois de
oui, c'était à quelques semaines de l'élection présidentielle.
Et c'était à quelques semaines des élections présidentielles, avec un président qui avait changé complètement son fusil d'épaule sur le nucléaire, puisque aujourd'hui on est sur le développement à tout craint, hein, puisqu'on a besoin de l'énergie nucléaire dans les 100 ans qui viennent. C'est ce qui est servi par le pouvoir aujourd'hui. Donc du coup, Greenpeace a fait une action. Et cette action, eh bien, elle est sur le plan judiciaire illégal, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer sur le site.
Même en trottinette.
mais quel que soit le moyen de pénétration, on n'a pas le droit. Donc du coup, EDF essaye de porter un coup très important sur Greenpeace par le porte-monnaie, hein, tout à l'heure vous le disiez.
30 000 euros, je crois.
Et donc, ils veulent tuer dans l'œuf, effectivement, les actions qui mettraient en avant toute la politique de développement du nucléaire.
Plusieurs actions de pénétration ont eu lieu dans les sites nucléaires, et je pense que là, ça doit alerter la population, les services d'ordre, en disant. Si ce sont des Russes, par exemple, qui viennent faire sauter nos...
Oui, mais ils ne sont pas rentrés dans des endroits très, très dangereux.
Ils sont juste rentrés dans l'enceinte, ils ne sont pas allés dans les bâtiments.
Oui,
hein,
bien sûr.
Clair,
oui,
quand
non,
même.
Ils auraient pu... Les professionnels auraient pu...
J'ai visité à titre personnel 3 fois l'EPR dans sa construction. Je peux vous dire que pour rentrer dans l'enceinte même de la centrale, c'est quasi impossible en dehors d'être habilité. Donc là, ils sont rentrés dans l'enceinte, c'est-à-dire entre le grillage et le bâtiment. Hein, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Ils sont
rentrés dans l'enceinte entre le grillage et le bâtiment. Oui. Donc voilà, il faut remettre dans le contexte de l'époque. C'était un contexte très politique. Une relance par le président du nucléaire, et puis on était à 2 doigts des élections présidentielles. Voilà ce qui explique l'action de Greenpeace à l'époque.
D'accord.
13h07, on arrive à l'heure des cartes blanches. Qui veut commencer? Casimir?
Oui, alors moi j'ai 2 petites cartes blanches, une sur la santé et l'autre sur la santé, comme d'habitude. Alors, une enquête récente auprès des Français indique que le premier souci du pouvoir d'achat des Français est le pouvoir d'achat. Le coût de l'énergie a rongé une bonne partie de leurs revenus. Le reste à charge pour la sécurité sociale des médicaments et sur la biologie a doublé. Et les suppléments demandés par les chirurgiens et les personnes de santé ont fini de rincer nos Français dans le portefeuille. Actuellement, un malade sur 5 ne se soigne pas parce qu'il n'a pas les moyens ou parce qu'on lui en demande trop de sous ou qu'il ne peut pas le faire. Je veux dire que c'est tout à fait délirant quand on a entendu cette phrase prononcée lors de la mise en place de la sécurité sociale, vous serez soigné selon vos besoins et vous paierez selon vos moyens. C'était 1945, mais il semble qu'on est en train de s'en éloigner sérieusement. En matière de soins, en plus des chirurgiens qui demandent un certain nombre de suppléments, nos concitoyens se font singulièrement mordre par certains dentistes. Le coût d'un appareillage peut être 8 à 10 fois supérieur à ce que paye le dentiste au prothésiste. Donc, quelque part, faudrait veiller à être modeste. Il serait souhaitable que la Sécurité sociale, la CPAM, veille à assouplir ses démarches et puis aussi assouplir ses refus qu'elle oppose aux médecins généralistes qui ne demandent finalement, en augmentant leurs honoraires, qu'une remise à niveau de leur de l'inflation. Et je vous signale que les honoraires n'ont pas bougé depuis 2018. Voilà. On peut donc s'émouvoir avec 900 euros, c'est une information que nous avait été donnée, d'augmentation de reste à charge pour les patients. Et cela demande si vraiment on a la dent dure ou si les chirurgiens dentistes qui nous demandent cette somme ne sont pas vides. Si on les compare aux chirurgiens orthopédistes, par exemple, qui ont une responsabilité singulièrement supérieure en matière d'appareillage et de compétences, on peut en douter. Donc, il y a là une dérive qui est tout à fait normale. Il faut que les patients qui vont chez le dentiste leur demandent un devis, qu'ils remettent le devis, et il y a trois niveaux de devis. Le prix en charge à 100%, un coût moyen et un coût élevé en fonction du luxe qu'on veut donner.
La mutuelle.
Voilà.
Merci Casimir. Jean-Luc Michel.
Oui, alors moi je voulais revenir sur un dossier du Conseil économique et social normand sur la reconversion de la tourbière de Beautre et la tourbière de Sèvres. Donc il y a un rapport qui vient d'être publié par le Césaire. Et j'invite les Manchois, parce que vous êtes concernés, hein, le Marais de 40 ans, c'est le poumon de notre département et la gestion à la fois des terres qui vont être concernées par la remise en eau de l'arrêt de l'exploitation de la tourbière de Beautre, ainsi que la montée des eaux. Je vous invite à le lire parce qu'il est très instructif et il y aura certainement une suite à cette étude puisque nous aurons certainement l'occasion et ça fera l'occasion d'une deuxième partie certainement en 2025. Comment gérer effectivement les eaux sur ce marais de 40 ans? Je vous rappelle que nous absorbons les eaux qui viennent du Cotentin, qui viennent du Centre-Manche et aujourd'hui elle va devenir réserve nationale. Donc je crois que nous avons là
Wikimanche est bien placé pour en parler.
Alors je ne sais pas, nous n'avons pas encore cet article sur Wikimanche, mais pourquoi pas en tout cas informer nos concitoyens qu'effectivement on va transformer cette tourbière.
Lucie Le Gallet.
Oui, alors carte blanche, moi je voudrais parler de la mortalité des huîtres et du neurovirus. Alors, je ne suis pas une experte, mais ça me tient à cœur. J'ai un grand-père qui s'est battu toute sa vie pour dire ce n'est pas un virus, c'est pas nocif pour la santé. On peut manger des huîtres. Les huîtres, on les mange quand elles sont encore vivantes. Et le virus, entre guillemets, il attaque que les bébés huîtres quand vraiment quand les huîtres sont mortes. On constate le neurovirus dans des huîtres mortes. Donc, en fait, quand on les mange, elles sont pas malades. Donc, mon coup de gueule, c'est manger des huîtres et n'écoutez pas les médias qui partent
respectez
sur
quand même les consignes
virus,
sanitaires.
Virus. Oui, mais elles passent en bassin très souvent en plus. Donc.
Bon, 13h12, on arrive au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être venus au micro de CFM. Vous pouvez retrouver cette émission sur le www.cfm.fr, la rubrique podcast, sur les réseaux sociaux, notre compte Facebook, rédaction.cfm. On remercie la technique et on se quitte en musique avec Jack et Parapluie sur CFM.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux, le cri de ton cœur lui sonnait faux. Comme